Europe Matin.
Fanny Marceau.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. C'est un bonheur de vous accompagner toute cette semaine pendant qu'Ombline et Julien se ressourcent. Bonnes vacances d'ailleurs à tous les deux. Ici, Rémi Duprat est à la réalisation et on se réveille en douceur.
Et quoi qu'elle me porte ma journée, on pourra plus me la gâcher.
J'espère que vous avez le sourire avec nous ce matin. De Paris à Avranches, de Montbéliard à Mont-de-Marsan, de Manosque à Mâcon, où que vous soyez, merci d'être avec nous. On est ensemble jusqu'à 6h30. Dans l'actualité de ce lundi 2 mai, Emmanuel Macron a-t-il reçu le message? Plus de 100 000 manifestants hier en France. 1er mai symbolique, une semaine tout juste après sa réélection. 1er mai politique, notamment pour l'Union de la gauche, les Verts et la France insoumise ont signé un accord hier soir en vue des législatives. 1er mai tendu, vitrine cassée, pompiers agressés, des violences inacceptables pour Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Ministre qui sera bientôt remplacé, comme tout le gouvernement. Cette semaine, on attend le grand renouvellement. Qui pour prendre la place de Jean Castex? Plusieurs noms ont été évoqués, des femmes notamment, Elisabeth Borne peut-être, l'actuelle ministre du Travail. Actualité politique chargée, on décrypte tout ça ce matin sur Europe 1 à 6h10 avec Alexandre Malafaï, écrivain et fondateur de Sinopia. On va également parler ce matin de nos amis les abeilles. Vous les entendrez bourdonner, vous les entendez de plus en plus. Eh bien c'est normal, elles sont de retour, comme le soleil. Après des mois d'hibernation, elles cherchent un nouvel endroit où s'installer. Pas toujours facile, on en parle à 5h40 avec Lionel Potron, il est apiculteur en région parisienne. Et puis on terminera avec l'incontournable Partition et ce matin, le groupe le plus emblématique de l'histoire du punk. Une comète, un seul album en 1977 et voilà tout le monde du rock bouleversé. La Partition des Sex Pistols à 6h20. Vous avez l'essentiel du programme. On commence avec la météo. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
Bon alors comment s'annonce ce premier lundi de mai?
Très calme, très doux. C'est pas très ensoleillé, ouais, ça va être ça, un petit peu comme ce week-end. C'est vrai qu'on a un passage nuageux assez important sur le pays. Alors ce matin, il va falloir être très prudent, surtout dans le sud-ouest. Hein, entre les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et jusqu'aux Pyrénées-Orientales, on a beaucoup de brouillard, donc attention sur la route. Le ciel va rester gris et couvert sur la pointe bretonne ce matin. Voilà, c'est très couvert du côté du Finistère. Et puis cet après-midi, ça va quand même s'éclaircir. Alors d'abord sur la pointe bretonne et puis partout ailleurs, on aura un ciel partagé entre belles éclaircies et passages nuageux. Attention, ça va se dégrader en montagne. On a toujours un risque d'averse sur le massif central, sur les Alpes, sur les Pyrénées. Il y aura de l'eau cet après-midi. Alors les températures, elles sont stationnaires. On a 2 degrés ce matin à Charleville-Mézières, 5 pour Nancy, 8 degrés à Brest et Limoges, 9 à Paris et déjà 12 degrés à Nice.
Oh, ça commence
cet après-midi, oui, il va faire très doux. Cet après-midi, 13 à Saint-Brieuc, 15 pour Tarbes, 19 à Paris et Clermont-Ferrand, 21 pour Bastia et 24 la maximum. C'est encore de la grande douceur à Nîmes.
Merci beaucoup Anissa. Très bon réveil à tous sur Europe 1. Il est 5h. La nouvelle Union populaire écologique et sociale, accord conclu en toute fin de soirée entre Insoumis et Écolo pour les législatives. Les détails dans un instant. Un pompier agressé, des vitrines cassées. La manifestation du 1er mai à Paris a dégénéré hier. Des violences inacceptables, dénonce le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Et puis, les petits papiers se sont envolés. Ambassadrice des Nuits Parisiennes, chanteuse populaire, Régine est décédée hier à 92 ans. Une artiste dont la carrière aurait pu être encore plus étincelante qu'elle ne l'a été. Selon Hugo Frey, nous entendrons son témoignage.
Europe Matin,
Fanny Marceau.
Et le premier journal de la journée vous est présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. La gauche voit le bout du tunnel. Contre toute attente, l'union derrière Jean-Luc Mélenchon semble possible. Insoumis et Écolo ont enfin réussi à se mettre d'accord. Cette nuit, en vue des législatives, Alexis de La Fontaine, chez LFI, on pousse un ouf de soulagement.
Oui, cette nuit est née la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et pour Manuel Bompard, directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon, la victoire est à portée de main.
Cet accord ce soir, qui effectivement est la première pierre la volonté de construire quelque chose d'encore plus ambitieux dans les prochains jours, avec l'objectif de constituer une majorité à l'Assemblée nationale.
Les deux formations ont conclu un programme commun qui comporte la sortie du nucléaire, la hausse du SMIC à 1400 euros et la désobéissance à certains traités européens. En échange, les écologistes obtiennent 100 sièges, dont 30 estimés facilement gagnables. Mais pour Julien Bayou, secrétaire national des Verts, ce n'est que le début.
On va pouvoir se mettre en ordre de bataille et pouvoir faire campagne sous cette bannière commune. Et on appelle les autres forces de gauche à rejoindre cette initiative, cette dynamique.
En effet, la pression est maintenant sur les socialistes et une réunion est prévue à 10h avec les insoumis pour finaliser l'union, assure un cadre, alors que les communistes seront eux reçus à 15h pour reprendre les négociations.
Merci Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1.
Incidents, violences, heurts, manifestations du 1er mai sous tension hier.
Oui, avec des cortèges qui ont fait le plein, la CGT revendique 210 000 manifestants partout en France, 116 500 selon le ministère de l'Intérieur, qui dénonce des violences inacceptables, notamment à Paris. Agences bancaires, immobilières, sociétés d'assurance ou encore fast-food ont été vandalisées. 54 personnes ont été interpellées dans la capitale, selon Gérald Darmanin.
Et parmi elles, une femme accusée d'avoir agressé un pompier.
Oui, hein, la vidéo de l'agression fait le tour des réseaux sociaux depuis hier. Les syndicats montent au créneau et réclament plus de sécurité. Écoutez Manuel Coulet, adjoint national Sud SDIS.
On a été à l'origine, il y a 3 ans maintenant, d'une expérimentation sur les caméras piétons pour les sapeurs-pompiers qui ont permis de faire remonter des images au niveau des tribunaux et d'avoir des condamnations un peu plus fermes. Nous, on espère que le dispositif caméra piéton soit étendu aux véhicules, puisque c'est aussi un moment où les pompiers sont agressés quand ils sont encore en véhicule. Pour l'instant, c'est pas encore mis en œuvre. On espère que ça sera fait rapidement pour pouvoir continuer à avoir une sorte de protection et en tout cas de dissuasion envers les agresseurs.
Des propos recueillis par Nina Drov pour Europe 1.
Nouvelle manifestation prévue aujourd'hui, cette fois-ci à l'appel des syndicats de police.
Devant les commissariats et tribunaux d'une quarantaine de villes en France pour protester contre la mise en examen pour homicide volontaire du policier qui a tué 2 hommes sur le Pont Neuf à Paris le soir du second tour de la présidentielle. Dans la capitale, le rassemblement est prévu à midi sur la place Saint-Michel.
Très bonne nouvelle pour les salariés, un peu moins pour les sociétés maintenant.
Oui, hein, la revalorisation du SMIC, conséquence de l'inflation, il s'élève désormais à 1302 euros net mensuels, 33 euros de plus que le mois dernier, 72 euros supplémentaires par rapport à il y a un an. Une augmentation importante susceptible de plomber les finances des entreprises, comme l'a confié à Carole Ferry, cette responsable d'une société d'aide à domicile basée à Limoges.
Les auxiliaires de vie, on est sur des bas salaires, donc elles méritent amplement cette revalorisation.
Là-dessus, Cathy Meunier n'a aucun doute, le travail de ces 130 aides à domicile mérite sans conteste d'être revalorisé, sauf qu'elle gère une entreprise privée à Limoges et elle a fait ses calculs. Aujourd'hui, elle ne voit pas comment elle peut absorber cette hausse.
Nous, on a calculé la part revalorisation à partir du 1er mai sur l'année, sur un an, ça nous coûtera 52 000 euros. Sachant que l'année dernière, on a fait un résultat net de 32 000 euros. Donc, je ne sais pas comment je vais le financer, car dans notre profession, on a un encadrement des prix. Nos tarifs ne sont pas libres, on n'a pas le droit de les augmenter comme bon nous semble. À cela se rajoute aussi la hausse de l'essence. Comme on fait de l'aide à domicile, on a revalorisé les indemnités kilométriques des auxiliaires de vie. Donc pour l'instant, on est dans le flou le plus total. Donc je ne sais pas comment je vais financer tout ça.
Seule solution, selon elle, que les tarifs facturés aux particuliers soient également revalorisés, ainsi que les aides accordées aux plus fragiles.
Carole Ferry, chef du service économie d'Europe 1.
Il est 5h05 sur Europe 1. L'INSERM tire la sonnette d'alarme sur une hausse inquiétante. Pour la première fois depuis 10 ans, le taux de mortalité infantile augmente.
Entre 2012 et 2019, il est passé de 3,3 à 3,5 décès pour 1000 naissances. Alors, cela peut paraître peu, mais pour bien s'en rendre compte, cela représente 1200 décès supplémentaires de bébés âgés de moins d'un an. Une hausse terrible. On ne connaît pas précisément les cause de cette surmortalité, Yasmina Khatoum, et des pistes sont à l'étude.
Oui, faute de données sur les décès des nouveau-nés en France, les causes de la mortalité infantile restent très incertaines. Les malformations congénitales ou le poids à la naissance, qui pourraient être des indicateurs, ne sont pas précisées sur le certificat de décès. Mais la santé de la mère est l'un des facteurs avancés. Jennifer Zetlin est épidémiologiste et co-auteur de l'étude.
Les femmes enceintes sont en moyenne plus âgées, peuvent avoir plus de problèmes chroniques. La mortalité infantile est plus élevée chez les femmes qui viennent des milieux défavorisés. questions d'accès aux soins et la qualité de soins.
Autre hypothèse, il y aurait trop de maternités en France, mais pas assez de soignants pour assurer les accouchements dans des conditions optimales, regrette Jean-Christophe Rosé, co-auteur et néonatologiste.
En maintenant un très grand nombre de maternités où le niveau de sécurité ne peut pas être le même, faute de personnel médical suffisant, et d'habitude de l'équipe à faire face à un accident rare, fait qu'on n'a pas le même niveau de sécurité dans l'ensemble des maternités.
Selon Jean-Christophe Rosé, les autorités devraient donc privilégier la qualité des soins à la proximité des maternités.
Yasmina Katou.
La guerre en Ukraine, pour la première fois depuis le début du conflit, il y a eu 2 jours de vrai cessez-le-feu dans la ville martyre de Mariupol.
C'est ce qu'a déclaré hier soir Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui espère une reprise du couloir humanitaire ce matin. Plus d'une centaine de civils, principalement des femmes et des enfants, ont pu être évacués du complexe sidérurgique d'Azovstal entre samedi et hier. Ils devraient arriver dans la matinée à Zaporojje, plus à l'ouest.
Régime. Le ciel est bleu comme l'azur.
Oui, Régine, mais oui, Régine Azzurro, Régine chanteuse, mais aussi Régine reine des nuits parisiennes.
Avec son roux flamboyant que l'on connaît si bien, Régine s'est éteinte hier en fin de matinée à l'âge de 92 ans, région parisienne. Fermeture pour cause de longue et grande carrière, a déclaré l'humoriste Pierre Palmade, pour celle qui a marqué la chanson française avec plusieurs classiques que l'on connaît tous, La Grande Zoa, Les Petits Papiers ou encore Azzurro, on vient de l'entendre. Une carrière remarquable, mais loin d'être à la hauteur de son talent, estime son ami Hugo Frey.
Je trouve qu'en tant que chanteuse, elle avait une carrière qui aurait pu être beaucoup plus brillante encore. Si les gens avaient eu un peu la sensibilité pour d'écouter le son de sa voix, elle avait une voix très émouvante qui portait cette blessure d'une femme qui a vécu une jeunesse difficile, enfant d'émigrés, juifs, etc. Cette façon qu'elle avait de chanter, comme les chanteuses de rue autrefois, comme les chanteuses qui chantaient Bruant, comme Berthe Silva, des gens comme ça. C'est une gouailleuse, comme on disait. Quand elle chante Les Petits Papiers de Gainsbourg, je trouve que c'est formidable.
Laissez parler les petits papiers, à l'occasion papier chiffon, puisse-t-il un soir papier buvard vous consoler.
Régine qui restera dans nos petits papiers à nous. Et c'était Hugo Frey jouant pour Europe 1, Paris Guillaume Dominguez.
Merci Alban Le Prince pour le journal Place aux Courses. Il est 5h09 sur Europe 1. Le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Fanny. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Vichy et mon pari gagnant sera le 805 Ginko du Roussoir. Oublié sa dernière disqualification à Castillonnès où il avait course gagnée lorsqu'il se montrait fautif à mi-ligne droite sans raison apparente. Associé une nouvelle fois au crack driver Eric Raffin, ces deux-là auront donc à cœur de remettre les pendules à l'heure et rembourser ainsi leurs nombreux supporters. Notez bien, pour cet après-midi à Vichy, réunion 1 dans la 8e course, le numéro 5, Ginko du Roussoir.
Merci Thierry Léger. Vous revenez avec vos pronostics du quintet dans une demi-heure et vous, restez avec nous dans un instant, le pressing.
La France bouge.
Par Elisabeth Assayag.
La restauration reprend des couleurs. Gros plan sur un groupe français de plus de 10 000 collaborateurs. Ce groupe, ce sont des brasseries emblématiques comme le Procop, l'IP, des salons de thé comme Angelina ou encore des chaînes comme Hippopotamus. Leur parole est rare. La directrice générale du groupe Bertrand est l'invitée de La France bouge.
La France bouge.
A tout à l'heure, 13h, sur Europe 1.
Europe 1.
Fanny Marceau.
Il est 5h10 et c'est l'heure de votre pressing. Johan Tritz nous a rejoint. Bonjour Johan.
Bonjour Fanny.
On commence avec les unes de nos journaux aujourd'hui. Le Figaro au cœur du Donbass dévasté. Les forces pro-russes ont emmené un groupe de journalistes dans plusieurs villes de l'est de l'Ukraine pour montrer leurs trophées des villes désormais sous contrôle de Moscou où les populations tentent de survivre entre deuil et résignation pour certains, abstraction et gratitude pour d'autres. Paradoxe de la guerre, à Berdiansk, les jeunes mariés se disent oui devant un édile choisi par Moscou. Moscou. À Marioupol, des habitants remercient les Russes pour leur aide humanitaire et reprochent aux militaires ukrainiens résistants de ne leur avoir rien apporté. Faites-vous plaisir. Zoom sur le retour des touristes dans le Parisien aujourd'hui en France. Les monuments incontournables de la capitale retrouvent leur fréquentation d'avant pandémie. Expo, musées, châteaux, les Français et leurs visiteurs étrangers ont faim de culture. Et puis, l'hommage de Libération, on vient de l'entendre, à Régine. Éclipse de plumes, titre Le Quotidien. Chanteuse, comédienne, chef d'entreprise, évidemment, la reine des nuits parisiennes s'est éteinte hier à l'âge de 92 ans. Voilà pour les unes. Johan, quels articles ont retenu votre attention ce matin?
On va commencer avec un peu de football, Fanny. Enfin, de la loose surtout, histoire racontée dans Ouest France. Les amateurs français du ballon rond doivent se souvenir de cette série de Marseille qui n'avait plus gagné à Bordeaux depuis 44 ans. Série qui a pris fin cette année, mais il y a encore bien pire. Et ce n'est pas très loin d'ici, d'ailleurs, direction la Manche, où se trouvent les trois principales îles anglo-normandes, Jersey, Guernesey et Origny. Il faut savoir que chaque année, depuis 1905, les trois équipes de foot de ces îles s'affrontent dans un tournoi local, une tradition ancestrale qui s'appelle la Murati Vase, c'est le nom de la compétition. Donc chaque année, la plus modeste équipe, c'est celle d'Origny, avec 1800 habitants pour 15 km² seulement de territoire, reçoit tour à tour en demi-finale Jersey, puis Guernesey, c'est l'une après l'autre, on a compris. Jersey qui compte quand même 112 000 habitants, hein, c'est beaucoup plus grand, Guernesey 68 000, voilà pour la différence. Et le match se déroule sur le terrain champêtre d'Origny, le Mount Hale, un stade sans tribune, juste à côté de la mer, et donc le vainqueur de cette demi-finale va en finale contre la troisième équipe. Sur ça, on a compris. On va dire qu'en termes de palmarès, c'est assez déséquilibré. Origny ne l'a gagné qu'une seule fois en 1920. 55 victoires pour Jersey, 46 pour Guernesey. Et depuis 1920, Origny n'a plus gagné un seul match, même pas une finale. Ça veut dire 102 ans sans succès.
Sans doute la
plus longue série au monde. Alors, avant chaque tournoi, c'est un peu l'ambiance Coupe du Monde à Origny. Toute l'île soutient l'équipe qui a affronté cette année Guernesey. Ce sont les mots, bien sûr, de l'entraîneur Josh Concacaf. Le plus gros événement sportif du coin pour nous. Gagner un match relève du même exploit qu'un club amateur qui battrait une équipe de première division professionnelle. Un quart des habitants quand même se déplacent pour la rencontre, pour ce match. Mais en face, on parle plutôt du pire match de Grande-Bretagne à cause de toute la pression. Pourquoi précisément? Eh bien, c'est le patron de l'équipe de Guernesey, Tony Vance, qui l'explique. À un moment donné, Origny va battre quelqu'un et heureusement, ce n'était pas nous cette année. Oui, défaite encore d'Origny 2-0 qui repart donc pour une année supplémentaire sans victoire, ce qui porte la série à 103 ans. Et pour ceux que ça intéresse, la finale aura lieu le 21 mai prochain avec un joli trophée en forme de vase, bien sûr, pour le vase marathon.
Bah oui, merci beaucoup, Johan. Je vais conclure ce pressing avec une occasion en or, l'opportunité de chanter. Le Moulin Rouge, non pas pour une soirée, mais pour une nuit entière à seulement 1 euro. Au menu, visite privée au cœur de l'histoire du monument, découverte des affiches originales de Toulouse-Lautrec, rencontre avec les équipes et la meneuse de revue, spectacle bien sûr, dîner évidemment, et une nuit dans le moulin. Ces pales qui tournent depuis 133 ans, exceptionnellement arrêtées pour que vous puissiez dormir au calme, dans un espace créé juste pour vous. Cette pièce où vous dormirez peut-être, c'était une remise qui a été transformée en chambre pour l'occasion. Déco d'inspiration 1900, des fleurs et art nouveau. Et c'est Airbnb qui a payé la facture, car le Moulin Rouge s'est associé à la plateforme de location saisonnière pour créer cette expérience unique. Enfin unique, entendons-nous, hein. Trois nuits seront possibles pour trois couples. Gros coup de projecteur en tout cas pour le Moulin et nombre de connexions records en vue pour Airbnb. Car pour tirer le gros lot, eh bien, il faudra cliquer plus vite que son ombre. Le 17 mai, Johan, tenez-vous bien, à 19h, j'espère que vous êtes
prêt
à cliquer. Les premiers connectés seront les premiers servis. Alors, ce n'est pas la première fois qu'Airbnb négocie une expérience inédite comme celle-ci à Paris. Une nuit dans les catacombes, une nuit à l'aquarium face aux requins, ça vous aurait bien branché ça, non?
Oui.
Une nuit sous la pyramide du Louvre, 200 000 connexions pour une seule réservation possible pour le Louvre. Et même hors de nos frontières, une nuit dans le château de Dracula ou dans le studio des Beatles à Londres.
Ouais.
C'est pas mal ça aussi.
Ouais.
À chaque fois, en tout cas, beaucoup d'appels, c'est vrai, et peu d'élus. Et ceux qui n'auront pas la chance de dormir au Moulin Rouge pourront toujours se consoler avec d'autres moulins français inscrits sur Airbnb. L'occasion peut-être de découvrir une autre perle et de chanter à sa belle.
Tu fais tourner de ton nom
tous les moulins de mon cœur.
Moi, ça me va bien. Comme chante ça, Airbnb vous invite à dormir au cœur du Moulin Rouge. C'est à lire sur Le Parisien.
Europe Matin.
Fanny Marceau.
Il est 5h16 sur Europe 1, les principaux titres de ce jeudi, le journal permanent Alban Le Prince.
Écologistes et insoumis sont tombés d'accord cette nuit sous la bannière Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale pour les législatives. Une centaine de circonscriptions seront réservées aux Verts. Les discussions doivent reprendre aujourd'hui entre les filles socialistes et communistes. C'est dans ce contexte de tension d'après-présidentielle que les manifestations du 1er mai ont fait le plein hier. 116 500 manifestants selon le ministère de l'Intérieur, 210 000 pour la CGT. À Paris, des vitrines ont été taguées, cassées, un pompier agressé, 54 personnes ont été interpellées. Aujourd'hui, ce sont les syndicats de police qui appellent à protester contre la mise en examen pour homicide volontaire du policier qui a tué deux hommes sur le Pont Neuf le soir du second tour de la présidentielle. Manifestation prévue devant les commissariats et tribunaux d'une quarantaine de villes en France. Et puis un homme, toujours porté disparu hier soir en Guadeloupe après les violentes inondations du week-end qui ont aussi fait 2 morts selon la préfecture.
Europe 1. On passe à notre interview Feel Good du matin, initiative en France, l'occasion de découvrir de bonnes idées bien chez nous.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette.
Initiative à vélo aujourd'hui avec Team Sport. Bonjour Jérôme Blanc.
Bonjour.
La vie à bicyclette, c'est votre rêve. Vous êtes le cofondateur de Team Sport, loueur de vélos de fonction. Qu'on soit bien d'accord, votre client, c'est l'entreprise, hein, pas le salarié.
Exactement. On discute avec les sociétés.
Et alors comment ça fonctionne? Vous mettez une flotte de vélos à sa disposition?
Oui, on propose en fait des vélos dédiés à chaque collaborateur qui désirerait en avoir un. On va contractualiser avec la société, les collaborateurs se manifestent et après ils choisissent le vélo de leur choix avec plein de services autour. Donc il y a un casque, un cadenas, une assurance, de l'entretien, une assistance rapatriement et on les accompagne pendant toute la durée de vie de la location qui dure 36 mois.
C'est du vélo ou du vélo électrique? Du vélo de tricheur?
C'est plutôt du vélo à assistance électrique en fait. Les gens qu'on équipe, hein, les sociétés, ce sont des salariés qui sont souvent bien habillés, qui n'ont pas envie d'arriver transpirant au bureau et donc on va plutôt partir sur un vélo à assistance électrique.
Donc combien ça peut coûter à un chef d'entreprise de mettre des vélos à disposition?
Alors la moyenne des loyers chez Team Sport pour un vélo est 100 euros. Généralement, on équipe à peu près 10% des entreprises. Généralement, les entreprises qu'on équipe sont des TPE, PME, entre 200 et 500 collaborateurs. Donc voilà, c'est un budget qui reste assez limité, sachant que dans le vélo de fonction, en plus, 30% du loyer, donc sur les 100 euros, 30 euros sont payés par le collaborateur pour éviter le risque de requalification d'avantage en nature. Donc le coût pour la société est assez faible. Et en plus, l'État aide les entreprises à passer au vélo parce qu'il y a une réduction d'impôt qui est mise à disposition des entreprises. Si elles s'engagent sur 36 mois, elles peuvent déduire de leur IS leur loyer. Donc en fait, ils ne vont payer que 50% des loyers. Donc 50 euros par mois, c'est un petit peu plus cher qu'un pass de transport en commun, mais on arrive à avoir un moyen de mobilité douce qui va améliorer la politique RSE, hein, de responsabilité sociale et environnementale de la société.
Vous avez parlé de transport en commun, c'est vrai qu'on est plutôt sur quelque chose d'urbain. On n'est pas sur le genre de véhicule de fonction qu'on peut avoir à la campagne, par exemple, quand on travaille dans des petites villes peut-être moins bien desservies.
Oui, vraiment, les entreprises qu'on équipe sont dans des grandes agglomérations françaises ou en périphérie de ces agglomérations-là. Aujourd'hui, on n'a pas encore de clients qui sont venus nous chercher pour équiper leurs salariés qui sont en dehors des grandes villes. C'est vraiment aujourd'hui, ça touche vraiment les salariés urbains, plutôt orientés dans le secteur tertiaire, même si on a des entreprises industrielles dans des villes de province. Donc ça touche vraiment toutes les typologies d'entreprises, mais dans les agglomérations.
Ce qui est pratique pour le salarié, en tout cas, c'est qu'il est sûr d'aller au travail avec un bol d'air frais, bon, très frais d'ailleurs, sûrement certains matins d'hiver, mais en tout cas, on évite la cohue des transports.
Exactement, ça a été le déclencheur en fait du vélo de fonction parce que quand on a lancé l'entreprise avec mon associé Alain Tlamy en 2019, peu de gens étaient intéressés par le vélo, voire pas du tout. Et la crise du Covid est passée par là, le confinement, et les sociétés ont voulu faire revenir à la sortie du confinement leurs collaborateurs assez rapidement sur le lieu de travail sans leur faire prendre les transports en commun, justement cette cohue, éviter de se faire contaminer. Et les entreprises sont passées au vélo pour justement que les salariés soient libres dans leur choix de trajet, qu'ils soient autonomes et non pas mêlés au milieu de la foule. Donc ça a beaucoup d'avantages le vélo, hein. C'est vraiment une alternative au transport en commun. Et puis on va faire pratiquer une activité sportive à ses collaborateurs. Donc c'est plutôt bien pour la santé de ces salariés qui arrivent de bonne humeur au bureau.
Vous faites partie des entreprises, des secteurs d'activité qui ont réussi à faire du Covid une force. C'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, c'est une affaire qui marche bien.
Oui, ça marche bien. On est en pleine croissance. Hein. On fait plus que doubler chaque année notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on a plus de 70 clients dans toute la France, hein, pas uniquement l'Île-de-France. Hein, on couvre les grandes agglomérations françaises maintenant. Et on a 10 collaborateurs et on est en pleine période de recrutement. Donc s'il y a des gens qui veulent venir rejoindre une activité en plein essor, on sera ravis de les accueillir.
Ah bah le message passe. Du coup, il vous faut quoi comme collaborateur puisqu'on y est ?
Alors on cherche des profils plutôt commerciaux pour répondre aux demandes et aller chercher de nouveaux clients. Et puis également, on veut étoffer nos équipes de mécanique parce qu'il faut entretenir les vélos, il faut les réparer. Donc il y a de plus en plus de vélos qui circulent aujourd'hui et donc on a besoin de gens qui puissent gérer cette partie gestion de mécanique et le service client.
C'est assez personnel, mais vous, Jérôme Blanc, à titre personnel, vous étiez déjà un fan de vélo au départ ?
Oui, moi j'étais un fan invétéré de vélo parce que ça fait 17 ans que je fais du vélo, ce qu'on appelle le vélo taf dans Paris. Auparavant, j'avais une activité totalement différente du monde du vélo. Je travaillais dans la gestion d'actifs et je me rendais au travail à vélo. Et mon employeur ne m'a jamais proposé en fait un service de vélo. J'étais obligé de payer l'ensemble des frais d'achat du vélo, d'entretien, etc. Et donc, cette passion, j'en ai fait mon travail.
Et comment convaincre aujourd'hui ceux qui nous écoutent, qui par exemple vont au travail, soit en voiture, parce que par exemple ils travailleraient à des heures indues ou qu'ils ont simplement le courage d'affronter les embouteillages, soit qui vont en transport en commun, comment les convaincre aujourd'hui que le vélo c'est la meilleure option ?
C'est simple, plutôt que passer des heures dans les embouteillages à patienter, à s'énerver, il faut avoir une attitude plutôt sereine, mais vous passez sur le vélo. Aujourd'hui, on va plus vite en vélo qu'en voiture dans les grandes agglomérations françaises. Sur des trajets inférieurs à 10 km, le vélo est toujours plus rapide. C'est sécurisé, parce que c'est ça aussi qui peut faire peur. Le vélo, plutôt une image qui peut être accidentogène, alors que ce n'est pas du tout. Il y a moins d'accidents de vélo que de scooter ou de voiture, parce que les pouvoirs publics ont mis en place des pistes cyclables qui fleurissent un petit peu partout. Et c'est souvent ce qui énerve les automobilistes, c'est que il y a plus de pistes cyclables aménagées maintenant que de voies de voiture. Et donc, on va beaucoup plus vite à vélo, en toute sécurité. C'est ça qui est très, très agréable. Et on profite de sa ville. On redécouvre sa ville d'une façon différente. Beaucoup de nos clients nous disent qu'ils ont redécouvert, notamment Paris, ses monuments. On n'a pas le temps de voir quand on est en voiture, quand on est en embouteillage. Alors qu'en vélo, il suffit de lever la tête et on voit plein de belles choses.
Et on n'a pas le prix du carburant.
Et en plus, il n'y a pas ce problème-là, qui est un nouveau problème qui est arrivé effectivement pour les entreprises qui ont des frais d'essence qui ne font qu'augmenter. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de faire le plein d'essence avec un vélo. Pour brancher juste sur votre vélo assistance électrique, quand il n'y a plus de batterie, votre vélo sur une prise, et il suffit de le recharger en 3 heures, c'est votre vélo est plein d'énergie. C'est beaucoup moins cher effectivement qu'un plein d'essence.
Et on en sort en bonne santé. Merci beaucoup Jérôme Blanc, cofondateur de Team Sport, avec nous ce matin sur Europe 1. Merci, belle journée à vous.
Europe Matin, Fanny Marceau.
5h28, bon début de matinée sur Europe 1. À suivre dans un instant le journal de Christophe Lamar. Et puis on prendra des nouvelles de nos abeilles. Elles reviennent avec les beaux jours. Comment vont-elles ? Comment se porte la production de miel en France ? Réponse à 5h45 avec Lionel Potron. Il est apiculteur. Les beaux jours justement.
La météo avec Murprotec, leader de la lutte contre l'humidité et la pollution de l'air intérieur. Diagnostic complet actuellement offert. Toutes les infos sur murprotec.fr.
Anissa, les beaux jours, c'est pas pour tout de suite la grisaille ce matin.
Oui, on a de la grisaille ce matin sur une grande partie du pays. Et puis, même si on attend le printemps avec impatience, je vous rappelle qu'il faut respecter la nature et qu'il y a encore, entre le 11 et le 13 mai, les Saintes Glaces. Et qu'il peut encore faire froid, en tout cas, pour ces deux premières semaines du mois de mai. Donc, dans le nord-ouest, ce matin, sur le Finistère jusqu'à la basse Normandie, on a un ciel qui va rester très chargé toute la matinée. Dans le sud-ouest aussi, ce matin, les nuages envahissent Nice, les Pyrénées. Attention au brouillard entre les Landes et les Pyrénées-Orientales. C'est à l'est que nous avons la plus belle matinée le long des Alpes jusqu'en Auvergne, au bord de la Méditerranée. Là, le soleil brille. Cet après-midi, alors le ciel va quand même se dégager en Bretagne. On aura de belles éclaircies. Le temps est calme partout, sauf en montagne, où là, on a le retour des averses qui se déclenchent sur les reliefs. Alors, ça concerne le Jura, les Alpes, le Massif central, les Pyrénées, les reliefs corses. Il pleut, voilà, on a pas mal d'humidité en montagne. 3 degrés ce matin à Montluçon, 5 pour Aurillac, 7 à Metz et Lille, 9 pour Paris et Cherbourg et 14 degrés déjà ce matin pour Perpignan. Et cet après-midi, 14 à Cherbourg, 16 à Brest, 19 pour Paris, 24 à Nîmes.
Merci Anissa. Bon réveil à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h30, c'est l'heure de votre journal.
Europe 1.
Et à la une de ce lundi, l'enquête sur les tirs mortels du Pont-Neuf à Paris. 3 syndicats de policiers appellent à des rassemblements aujourd'hui. On en sait un peu plus sur le profil du policier qui a abattu les deux occupants de la voiture. La campagne pour les élections législatives, accord historique conclu cette nuit entre la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts. Reprise des discussions aujourd'hui avec les communistes et les socialistes. La guerre en Ukraine, une centaine de civils évacués à Mariupol. Pression russe maximale dans le Donbass. L'armée de Vladimir Poutine change de tactique, explication dans ce journal. Et puis le football, Marseille battu 3-0 sur sa pelouse par Lyon. Un revers à domicile qui pourrait coûter cher aux Marseillais.
Europe Matin, Fanny Marceau.
Le journal, Christophe Lamarre, bonjour.
Bonjour Fanny, bonjour à tous. L'enquête sur les circonstances de la mort de deux personnes sur le Pont-Neuf se poursuit. À ce stade, le juge n'a pas retenu la légitime défense. Le policier est accusé d'avoir abattu le conducteur et le passager d'une voiture qui lui aurait foncé dessus. Incompréhension des syndicats qui appellent à des rassemblements devant les tribunaux et commissariats ce midi. S'ils ne remettent pas en cause la mise en examen, c'est sa qualification pour homicide volontaire qui provoque leur indignation, Frédéric Michel.
Alors d'abord un point de droit, très souvent les magistrats choisissent la qualification la plus haute, ce qui ne préjuge pas des poursuites, mais c'est absolument nécessaire car il est très difficile de faire juridiquement marche arrière. Ce que l'on sait, c'est que le gardien de la paix a d'abord ouvert le feu de face lorsque le véhicule a foncé sur les policiers, puis il a poursuivi ses tirs, 10 au total, alors que la voiture qui a traîné sur plusieurs mètres, une de ses collègues, avait dépassé le groupe de fonctionnaires. Des tirs de côté qui posent la question de la légitime défense. Est-ce que le danger était totalement écarté? Est-ce que le policier a fait un usage disproportionné de son arme? Le gardien de la paix était le seul détenteur d'un fusil d'assaut. Son système de tir peut être programmé au coup par coup, en double coup ou bien en rafale. Il semblerait qu'il était en position double coup. Ce n'est pas la procédure habituelle. L'enquête devra faire la lumière sur ces différents éléments. Âgé de 24 ans, l'homme mis en examen pour homicide volontaire est présenté comme un fonctionnaire exemplaire. Quelques mois plus tôt, il avait sauvé en se jetant dans la Seine une femme qui tentait de se suicider. Son avocat, maître Laurent Franck-Liénard.
C'est une personne qui fait honneur à l'uniforme qu'il porte. Et d'ailleurs, s'il a réagi aussi vite et s'il a pu traiter cet événement, ça démontre que c'est un très bon fonctionnaire de police. Donc son dossier est parfaitement favorable, donc il n'y a rien à reprocher effectivement à ce policier.
Très choqué, le policier a été écarté le temps de l'enquête, une procédure classique. Une
explication Frédéric Michel.
La campagne pour les élections législatives, les Insoumis et Europe Écologie Les Verts sont parvenus à un accord.
Un premier pas vers une union de la gauche défendue par Jean-Luc Mélenchon. La France Insoumise et Les Verts feront campagne sous une bannière commune. Les écologistes obtiendraient 100 circonscriptions. Sur la question européenne, les deux partis ont trouvé un compromis. Il maintient la possibilité de désobéir à certaines règles économiques et budgétaires. Un accord ambitieux pour le secrétaire national d'Europe Écologie des Verts, Julien Bayou.
On a réussi à se mettre d'accord sur un programme le plus ambitieux. C'est certainement pas un filet d'eau tiède, c'est pas le plus petit dénominateur commun, mais c'est bien l'augmentation des salaires, le rétablissement des services publics, aller chercher 1 milliard d'euros par an pour l'égalité femmes-hommes, garantir l'autonomie de la jeunesse. Quand on va mettre en œuvre la rénovation thermique, la règle d'or climatique, la protection de la biodiversité, vous voyez que l'enjeu, c'est construire un vrai contrat de mandature, aller chercher une majorité. Et pour ça, il faut une bannière commune. Cette initiative, elle ne fait que démarrer et on appelle l'ensemble des forces de gauche à nous rejoindre.
Julien Bayou au micro d'Alexis Delafontaine. Les discussions reprennent aujourd'hui entre la France insoumise d'un côté et socialiste et communiste de l'autre.
Cet accord entre insoumis et verts a été conclu en marge des manifestations du 1er mai. Des défilés qui ont rassemblé plus de 100 000 personnes dans toute la France avec de violents incidents à Paris.
54 interpellations dont une femme responsable présumée de l'agression d'un sapeur-pompier. Agences bancaires ou immobilières ont été prises pour cible par des casseurs qui ont tagué les murs et brisé les vitrines. Des violences inacceptables a dénoncé le ministre de l'Intérieur.
Et bien sûr, la suite de ce journal, c'est l'inflation qui continue sa progression en France, plus 4,8 sur un an. Et ce n'est pas terminé. Les prix agricoles vont également flamber, mais pas partout. Hein. Le bio pourrait tirer son épingle du jeu.
Oui, c'est la conséquence de la guerre en Ukraine. Les producteurs de fruits et légumes bio sont moins dépendants des engrais et autres produits importés de Russie. Leur production pourrait donc bénéficier d'un effet d'aubaine. Maud Descamps, ils pourraient concurrencer les produits issus de l'agriculture conventionnelle.
Oui, c'est en tout cas la thèse défendue par les producteurs bio. La crise ukrainienne met en avant la dépendance de l'agriculture conventionnelle aux produits importés, alors que la production bio, elle, n'est pas impactée. Pour la spécialiste de la consommation, Émilie Meyer, il est vrai que l'inflation touchera moins l'agriculture biologique.
L'inflation, elle est plutôt aujourd'hui plus forte sur les produits non bio que sur les produits bio. La nature des engrais qui sont utilisés pour l'agriculture bio sont beaucoup moins consommateurs d'énergie, donc ce qui explique le fait que ce soit moins inflationniste.
Les producteurs bio misent donc sur la hausse des prix des fruits et légumes conventionnels pour trouver de nouveaux clients. Loïc Madeline est le secrétaire national de la Fédération nationale d'agriculture biologique.
On ne sait pas trop demain ce que fera le consommateur dans son acte d'achat. Peut-être que finalement, il privilégiera le produit bio au déficit du produit conventionnel à tarif égal.
Néanmoins, les ventes de produits bio sont plutôt en baisse depuis le début de l'année, moins 4% en janvier 2022 par rapport à janvier de l'année dernière, avec des consommateurs qui se tournent davantage vers les marques premier prix.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1 et autres conséquences de l'inflation avec cette augmentation des prix de 4,8% sur un an, eh bien c'est l'augmentation mécanique du SMIC depuis le 1er mai, 1302 € net par mois, soit une hausse de 33 € de plus chaque mois.
En Ukraine, l'évacuation des civils de Mariupol a commencé. Ça n'empêche pas Moscou de maintenir la pression sur le Donbass.
Information confirmée par les deux camps. Une centaine de civils ont pu quitter le complexe industriel d'Azovstal. Cette gigantesque usine reste sous contrôle de l'armée ukrainienne, mais elle est totalement encerclée par les Russes. Moscou qui accentue son effort dans la région du Donbass avec un retour à une tactique beaucoup plus classique, Marion Gauthier.
Oui, car les combats se concentrent à l'est où le terrain est plus ouvert et l'artillerie beaucoup plus utilisée que lors de la bataille de Kiev, par exemple. C'est ce que souligne Glenn Grant, il est analyste senior à la Baltic Security Foundation. C'est une bataille différente qui commence, dit-il. L'avantage cette fois est aux Russes qui retrouvent leur doctrine habituelle, bombardements intensifs pour épuiser les forces ennemies avant un assaut au sol.
Les Ukrainiens ont commencé la guerre sous-dotés. Ils sont dépendants des envois de nouvelles munitions, donc également de nouvelles armes. Parce que les munitions qu'on peut envoyer ont des calibres différents. L'artillerie que les Ukrainiens utilisent est très vieille.
Paris, Londres ou Washington ont déjà annoncé l'envoi d'armes longue portée, mais des soldats doivent être formés à l'utilisation de ces équipements ultramodernes. Kiev presse les capitales occidentales. Certaines batteries russes restent pour le moment hors d'atteinte.
Marion Gauthier.
À 5h37, le football et la très mauvaise opération de Marseille battue par Lyon hier soir.
Défaite 3-0 sur sa pelouse pour l'OM. Les Marseillais toujours deuxième du classement ce matin, mais Rennes et Monaco ne sont plus qu'à 3 points désormais. Le revers d'hier soir est d'autant plus inquiétant qu'il intervient à 3 jours d'une demi-finale retour de Coupe d'Europe face à Feyenoord. Stéphane Burgat.
Une fête gâchée, le doute s'installe déjà chez certains.
Ce soir, c'est une claque. Hein. C'est vraiment 3-0, c'est dur. C'est pas gagné, quoi.
C'est-à-dire, vous avez peur qu'ils accusent le coup pour jeudi ?
Oui. Il faut se remobiliser. Il faut penser qu'à ça.
Deux défaites d'affilée, ce n'était jamais arrivé cette saison à l'Olympique de Marseille. Personne à la sortie du stade Vélodrome ne veut pourtant croire au scénario catastrophe.
Non, ça va le faire. Mais parce que la défaite d'aujourd'hui, l'autre défaite, il ne peut pas y en avoir 3, c'est pas possible. Pas 3 de suite, c'est impossible.
Il va falloir faire tourner et rien lâcher parce qu'on peut aller chercher une finale. Je pense dans le Vélodrome qui va être bouillant jeudi. Non, je pense que le groupe est soudé. Les supporters, on l'a vu à la fin, les virages, ils n'ont rien lâché.
Mais ce coup d'arrêt pose néanmoins question sur la fraîcheur physique de certains joueurs, argument balayé par le gardien de but, Paulo Lopez.
Non, c'est pas la fatigue, non. On a encore la possibilité d'arriver en finale. Demain sera autre jour, on dépend de nous. Je pense qu'on doit faire notre travail.
Et cet OM aura-t-il du répondant dans ce moment de doute ? Réponse jeudi soir dans un Vélodrome qui affichera encore une fois complet. Et Marseille, Stéphane Burgat, Europe.
Et un Vélodrome qui espère évidemment faire la fête face à Feyenoord en cas de qualification, ce sera jeudi.
Merci beaucoup Christophe Lamarre pour le journal. On passe aux courses, les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Fanny, c'est à Vichy sur les bords de l'Allier que va se disputer ce quintet, une course au trot attelé qui réunira 14 chevaux âgés de 7 à 9 ans, répartis sur deux poteaux différents de départ, 2950 et 2975 mètres. Et j'ai privilégié ceux qui s'élanceront au second poteau, les numéros 13, Pharrell Seven, irréprochable depuis de nombreux mois, n'ayant jamais terminé plus loin que 4e lors de ses 11 dernières sorties. 11, Empereur du CB, dont l'aptitude à cette piste corde à droite de Vichy ne fait aucun doute. 14, Flamme Vive, qui vient de jouer de malheur le 9 mars à Amiens dans la première étape du Grand National du Trot. Et 12, Élixir du Rabutin, qui dépend de l'entraînement de Guillaume Huguet, dont tous les pensionnaires ne cessent de se distinguer actuellement. Ensuite, méfiez-vous de Franceville, le numéro 4, certes insaisissable, mais qui vient de se balader lundi dernier sur l'hippodrome de Cavaillon, et 8, Philae de Soyora, bien engagé à la limite du recul des 25 mètres. Enfin, les numéros 6, Fox Papa Tango, et 7, Floréal, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 13, 11, 14, 12, 4, 8, 6 et 7.
J'espère que vous avez bien pris note. Et si ce n'est pas le cas, les pronostics sont déjà à retrouver sur Europe1.fr. Merci Thierry Léger.
Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein.
Claude François qui est mort au milieu.
C'est le premier jour de l'euro.
Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin, Europe 1.
On prend la machine à remonter le temps, le jour où les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1. Et en ce lundi 2 mai, on célèbre les 100 ans de la naissance de Serge Reggiani, né en 1922, mort en 2004. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour Fanny.
C'est par le théâtre, Laure, et le cinéma qu'il a d'abord connu le succès. Et pour Serge Reggiani, la chanson est arrivée beaucoup plus tard.
Oui, il devient chanteur à 42 ans. Tout le monde lui déconseille de chanter, de prendre le risque d'échouer, sauf sa femme. Serge Reggiani persiste et en février 1968, il s'apprête à chanter à Bobino.
Je connais des tas de camarades qui ont envie de faire des choses et qui ne les font pas. Justement à cause du qu'en dira-t-on. Et à cause de ça, vous vous sclérosez. Et moi, j'ai 45 ans, je ne veux pas être sclérosé. Casser la baraque, je crois que c'est important.
Ma liberté, longtemps je t'ai gardée. Comme une perle rare.
Serge Reggiani chante Baudelaire, Boris Vian, Georges Moustaki. Au début de sa carrière, il fait la première partie de Barbara. Il raconte en chanson la vie quotidienne.
On me reproche également de voler au secours des bons sentiments. Et de... Mais que faire d'autre, soit ?
Quel problème ?
On va tout de même pas chanter n'importe quoi ou comment dire, des vulgarités, des choses que l'on entend trop souvent. C'est-à-dire que j'essaye non pas de... Je ne suis pas un messager, j'essaye de seulement de traduire ma propre inquiétude d'une part et d'autre part aussi mes joies.
Toi, ma drôle de vie, qui parfois me sourit. Je te dirai merci.
Cette voix, il aurait eu tort de ne pas continuer. Laure, Serge Reggiani est aussi un immense acteur.
Oui, il tourne dans Le Casque d'or de Jacques Becker. En 74, il joue dans Vincent, François, Paul et les autres de Claude Sautet. Dans les années 90, il raconte sur Europe 1 qu'il n'a pas la nostalgie de sa vie au théâtre et au cinéma parce que chanter à l'Olympia était son rêve. Mais malgré le succès, il a toujours un trac fou. C'est ce qu'il raconte au micro de Dominique Souchier en 1995.
Oh, c'est pas du trac, c'est de la panique. C'est de la panique. Mais je vais vous dire pourquoi. C'est parce que quand on a... Il paraît que j'ai une certaine réputation. Il faut donc que je la mérite.
Vous auriez peur de ne pas être à la hauteur?
À la hauteur, exactement. J'ai toujours peur de ça. J'entre avec une chanson forte qui est l'italien. Et ça m'aide à entraîner les autres chansons.
C'est moi, c'est l'italien. Est-ce qu'il y a quelqu'un?
Il explique aussi, en 95, comment se créent ses chansons.
Pourquoi vous n'écrivez pas vous-même vos chansons, Serge Reggiani ?
Parce que je ne sais pas le faire. J'écris des monstres, c'est-à-dire une dizaine de lignes, une quinzaine de lignes qui riment.
Donc vous leur donnez ces lignes ?
Je leur donne ces lignes, et de ces lignes, ils font une chanson réelle, avec couplet, refrain, etc.
Et en l'an 2000, Serge Reggiani enregistre un ultime album en forme de testament. Enfants, soyez meilleurs que nous.
Merci Laure. On se retrouve demain pour une nouvelle plongée dans les archives d'Europe 1.
Fanny Marceau.
Votre matinale info sur Europe 1.
Il est 5h43, bon réveil à toutes et à tous. Alors c'est vrai, on nous annonce des nuages aujourd'hui, mais les températures sont douces et accompagnent le retour des abeilles, grandes gardiennes de notre biodiversité, en quête du meilleur spot pour butiner tranquillement tout l'été. Bonjour Lionel Potron.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes apiculteur, 500 ruches environ en région parisienne. On a vu la semaine dernière des invasions d'abeilles dans le Puy-de-Dôme, dans le Morbihan, de gros essaims aussi en Charente. Ça y est, les abeilles sont sorties.
Alors oui, en effet, les abeilles sont sorties là, le mois d'avril en général et puis le mois de mai également. Ce sont les mois en fait où il y a des essaimages. Alors on voit en effet des essaims qui se promènent un peu partout pendant ces deux mois. C'est tout simplement parce qu'en fait, les ruches commencent à se repeupler fortement. Et quand c'est un peu trop rapide, en fait, c'est pas dur, les essaims se séparent en deux. Et donc, on voit une partie des abeilles qui quittent les ruches et qui vont chercher un autre emplacement pour habiter. Donc, on les voit se promener un peu partout.
Ouais. Ce qui est toujours surprenant, c'est qu'elles s'installent parfois dans des zones urbaines, sous les toits d'immeubles, sur des terrasses de café comme à Clermont-Ferrand la semaine dernière. Ce sont des zones qui leur conviennent, ces endroits-là ?
Non, en fait, c'est pas des zones forcément qui leur conviennent. En fait, elles s'accrochent à proximité de là où elles sont parties. En fait, elles restent comme ça quelques heures, voire quelques jours, le temps en fait de trouver un habitat un peu plus adapté. Le problème, c'est que, alors, en effet, en ville, du coup, le temps qu'elles trouvent un habitat plus adapté, c'est un peu plus long parce qu'il n'y en a pas naturellement. Ce serait à la campagne, bon, elles trouvent rapidement des trous dans un tronc ou des choses comme ça. Mais en ville, du coup, il n'y en a pas. Donc, on les voit, en effet, s'accrocher là jusqu'à ce que quelqu'un vienne les retirer. Quoi.
Mais j'imagine qu'elle panique un petit peu de ne pas savoir où aller.
Elle panique pas forcément, mais du coup, c'est vrai que quand elles sont là depuis plusieurs jours, alors si elles sont abritées sous un toit, elles paniquent pas du tout. Hein. Mais ça fait quand même de l'activité parce qu'il va y avoir des abeilles qui vont aller chercher un endroit pour habiter. Donc, plus elles vont passer de jour, plus il va y en avoir qui vont partir de l'essaim pour aider à trouver un habitat adapté. Quoi.
On craint toujours leurs piqûres, évidemment. Les abeilles piquent quand elles sont stressées. J'imagine que les zones urbaines ne sont pas du tout rassurantes pour elles. Comment on les apaise ? Comment on fait quand on est face à un essaim ?
Déjà, je pense que quand vous trouvez un essaim comme ça, il faut appeler un apiculteur pour qu'il vienne le retirer. Parce qu'en effet, comme elles cherchent un endroit pour s'installer, le mieux, c'est de leur donner ce qu'elles veulent, quoi, hein, donc une ruche. En général, elles ne sont pas dangereuses. Parce qu'elles sont gonflées de miel, vu qu'elles ont prévu la migration. Elles se sont gavées de miel, en fait, donc elles sont pas dangereuses en général quand elles sont comme ça en essaim.
Une étude récente assure que le réchauffement climatique a fait rétrécir certaines abeilles de montagne. C'est une manière pour elles de s'adapter au changement climatique. Est-ce que ça vous inquiète, vous, le changement climatique et ses conséquences, notamment sur la taille, par exemple, des abeilles ?
Oui, alors c'est pas forcément que sur la taille des abeilles. Bien sûr, la taille des abeilles, la génétique, oui, ça nous inquiète parce que c'est vrai que c'est jamais bon quand on en arrive là. Mais le réchauffement climatique, même pour, on va dire, en termes généraux, c'est pas bon non plus pour les abeilles, dans le sens où, on l'a vu par exemple en 2021, il y a eu des gelées dans le nord de la France, enfin sur la moitié nord de la France jusqu'au mois de juin. Donc il y a eu une année où il y a eu très peu de miel. S'il y a eu très peu de miel, ça veut dire aussi qu'il y a eu beaucoup de ruches qui ont manqué de miel pendant l'hiver, donc il y a une forte mortalité. Apparemment, 2022 est plutôt bien parti. Il n'y a pas trop de problèmes climatiques dans ce début d'année. Mais c'est vrai que si ça devait se répéter comme en 2021 ou même des années antérieures où il a plu pendant 3 mois d'affilée l'été, c'est vrai que c'est catastrophique pour les abeilles.
Ouais. Moins d'abeilles, c'est un risque pour la biodiversité. C'est aussi un risque pour votre métier. Parce que vous produisez quand même du miel. Et vous en avez suffisamment cette année ? Les stocks sont bons ?
Alors, ça a bien redémarré, comme je vous disais. L'année dernière, ça a été un peu difficile. On n'a pas pu augmenter nos ventes en conséquence de ce qu'on espérait. Tout simplement parce que l'année dernière, on a eu à peu près 60% du miel qu'on escomptait à cause d'un mauvais début d'année. Comme je disais, on n'a pas eu de miel du tout au printemps en 2021. Donc, on n'en a plus de ce miel 2021. Mais là, c'est bien reparti en 2022. Donc, on espère que la saison continue comme ça. Pour nous, le miel, c'est non seulement la partie, on va dire, commercialisable qui permet de continuer notre activité, et c'est aussi un gage de bonne santé pour les ruches. Donc, on est content quand il y en a, quoi. Ce qu'il y a aussi, pour revenir sur la question que vous disiez, qu'il y a une diminution du nombre d'abeilles, il y a surtout une diminution du nombre d'apiculteurs, tout simplement parce que c'est vrai que c'est un métier qui est relativement prenant et il y a c'est pas très très bien rémunéré malgré tout. En France, on a du mal à rémunérer correctement les gens qui produisent des produits agricoles, on va dire.
Et pourtant, on va avoir besoin de vous. Hein, là, le marché du miel est perturbé par la guerre en Ukraine, j'imagine, en tout cas à l'échelle européenne. Deuxième exportateur européen, l'Ukraine quand même. Est-ce que du coup, la demande va peut-être augmenter dans les semaines ? Vous êtes prêts, vous ?
Ben nous, on essaye d'être prêts. Alors nous, déjà, à notre niveau, nous, on ne vend pas en supermarché. Donc c'est surtout le miel ukrainien, ça va surtout impacter les supermarchés. Plus que nous, petits producteurs qui vendons en circuit court. Je pense que ça n'a pas beaucoup impacté les circuits courts, mais ça va vraiment impacter, oui, en effet, les centrales d'achat. Quoi.
En termes de prix, cette année, on est sur, on n'a pas d'augmentation de prévu, du coup, j'imagine, dans les épiceries notamment ou en circuit court.
Il y aura peut-être une petite augmentation quand même parce que, alors pas forcément sur le miel lui-même, le miel au kilo, il sera à peu près au même prix. Le problème, c'est qu'on a eu une augmentation de 50% des prix des pots et ça impacte quand même le prix au kilo à la revente.
Donc vous aussi, vous êtes touché par l'inflation et par les conséquences de cette guerre en Ukraine, malheureusement.
Ouais, je vous dis, avant ça, c'était même le problème du Covid. Déjà depuis l'année dernière, on a des problèmes d'approvisionnement des pots et des capsules pour nos pots. Ouais.
Merci beaucoup Lionel Potron de nous avoir donné des nouvelles du miel et des abeilles ce matin sur Europe 1. On vous souhaite une bonne journée, une bonne saison du miel, un bon courage. Et puis saluez les abeilles pour nous.
Parfait, merci à vous et bonne journée.
À bientôt.
Europe Matin, Fanny Marceau.
Il est 5h50, vous êtes bien sur Europe 1 et bien informé, le journal permanent Alban Le Prince.
La gauche aperçoit le bout du tunnel avec en ligne de mire la nouvelle Union populaire écologique et sociale, nom de la bannière commune entre insoumis et écolos qui ont trouvé un accord pour les législatives cette nuit. Les discussions reprennent aujourd'hui entre LFI, communistes et socialistes. Carton plein pour les manifestations du 1er mai qui ont rassemblé 116 500 personnes partout en France selon le ministère de l'Intérieur. La CGT en revendique 210 000. De nombreuses violences ont par ailleurs été constatées à Paris où un pompier a été agressé, 54 manifestants interpellés. Et puis du foot avec la clôture de la 35e journée de Ligue 1. Hier, un choc des Olympiques. Marseille balayé à domicile par Lyon, 3-0. Victoire de Nice à Bordeaux, 1-0. Lorient battu par Reims, 2-1. Match nul entre Montpellier et Metz, 2-2.
Bon début de matinée sur Europe 1. Comme tous les lundis, on parle série avec Marie Jiquel. Bonjour Marie.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
Avec sa jeunesse, son CV de première de la classe et ses cols roulés à la Steve Jobs, on lui donnerait presque le bon Dieu sans confession et surtout, on lui donnerait beaucoup d'argent. Elisabeth Holmes et sa société Theranos, fondée aux États-Unis en 2003, ont dupé le monde jusqu'au démantèlement de cette arnaque. Et cette supercherie est racontée dans la série The Dropout, disponible sur Disney+.
Oui, c'est l'histoire d'une femme qui refuse de voir la réalité en face, l'échec de son concept révolutionnaire, une seule goutte de sang pour un bilan sanguin complet.
Le monde fonctionne d'une certaine manière jusqu'au jour où une idée brillante vient tout révolutionner. Imaginez pouvoir faire des analyses de sang sans sortir de chez vous. Et imaginez qu'on n'ait pas besoin de tout un tube, mais d'une simple goutte.
Problème, Marie, j'étais captivée déjà par... Ça y est, j'étais déjà devant la
dans
série.
Dans l'ambiance.
Complètement. Alors, le problème, Marie, c'est que la machine qui réalise les tests, en fait, n'a jamais fonctionné.
Et ça, Elisabeth Holmes a toujours prétendu le contraire et elle a réussi à tromper des empires commerciaux aux États-Unis comme Walmart, mais aussi des politiques, montant de l'arnaque Fanny, une levée de fonds de 700 millions de dollars pour l'entreprise Theranos. Et puis, l'autre problème plus grave, ce sont ces faux tests sanguins aux résultats biaisés. Certains ont cru, par exemple, qu'ils avaient le sida. Alors pour incarner cette arnaqueuse aveuglée par l'envie de réussir, l'actrice Amanda Seyfried, qu'on avait découverte dans le film Mamma Mia, on s'en souvient bien, Amanda Seyfried avait d'abord refusé de jouer dans cette série, puis elle s'est ravisée et heureusement, elle a beaucoup travaillé la voix grave d'Elisabeth Holmes qui elle-même modifiait son ton pour avoir l'air plus sérieuse.
C'est encore très loin de marcher.
Qu'est-ce qu'on va montrer à la démo ?
On va leur expliquer qu'on n'a pas de prototype qui fonctionne. On est d'accord.
Notre deuxième levée de fonds nous a rapporté 165 000.
Récolte le pognon !
Je sais ce que t'as fait à la démonstration.
C'était une première étape très prometteuse.
inspiré donc d'un podcast qui avait cartonné aux États-Unis. La série adopte le rythme d'une intrigue dramatique.
Oui, tout à fait. De la gloire aux ténèbres après les révélations en 2015 du journal Wall Street sur cette vaste arnaque. Alors, Fanny, on se laisse bien embarquer par la série.
Ça, c'est vrai.
À la bande-son très années 2000, hein, avec toute la pop colorée de Katy Perry, par exemple. Et enfin, pour être au plus près de la justesse de cette histoire vraie, hein, pour être au plus près de cette histoire, la série a collaboré avec des avocats, surtout car le tournage se déroulait en même temps que le procès d'Elizabeth Holmes.
Ah oui.
Il s'est terminé il y a quelques mois en Californie. Elle a été reconnue coupable, elle risque 20 ans de prison, mais sa peine n'a toujours pas été prononcée.
Et cette histoire a eu un impact sur les jeunes entrepreneuses de la Silicon Valley qui peinent à trouver des investisseurs. On a même demandé à l'une d'elles de se teindre les cheveux en brun pour ne pas ressembler à Elizabeth Holmes. The Dropout, la très bonne série de Disney Plus en ce moment. Merci Marie Jiquel.
Europe Matin, Fanny Marceau.
Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, la météo, le journal et la semaine politique qui s'annonce chargée. Après un accord avec les Verts hier soir, la France insoumise doit encore négocier avec les socialistes et les communistes aujourd'hui. Emmanuel Macron, lui, devrait désigner son premier ministre dans les jours à venir. Peut-être une première ministre. Le tout au lendemain d'un 1er mai tendu, avec notamment des violences à Paris. On voit tout ça à 6h10 avec notre invité Alexandre Malafaille, président de Sinopia, l'Observatoire des gouvernances. Et juste après, la partition d'Omblin avec les plus irrévérencieux des British. La partition des Sex Pistols, c'est dans 20 minutes. Et la météo, c'est avec Anissa Haddadi. Anissa, une journée calme et printanière aujourd'hui. Hein.
Oui, en plus, nous avons des températures de saison. Donc, ça va correspondre au 2 mai classique que nous devrions avoir avec un petit peu moins de soleil. On a un petit peu plus de nuages.
Ça,
c'est vrai qu'aujourd'hui, le soleil sera souvent masqué. Avec 3 degrés à Clermont-Ferrand ce matin, 5 pour Aurillac et Belfort, 7 pour Lille et Lyon. 9 degrés à Paris ce matin, 11 à Bordeaux, 12 à La Rochelle. Et cet après-midi, la douceur est là au rendez-vous. 14 degrés à Dunkerque, 16 à Brest et Biarritz, 19 pour Paris et Saint-Etienne, 21 degrés à Bordeaux et 22 pour Montpellier. Enfin, on aura jusqu'à 24 hein, quand même en Avignon. Alors dans le ciel, on a de la grisaille et des brouillards ce matin entre les Landes et les Pyrénées. On a également un ciel très gris et très chargé en Bretagne, notamment sur la pointe bretonne du côté du Finistère. Et puis cet après-midi, nous verrons des éclaircies un petit peu plus un petit peu plus généreuses, mais les nuages restent quand même bien présents. C'est en montagne que la pluie va signer son grand retour aujourd'hui, avec un risque d'averse sur toutes les montagnes, Jura, Alpes, Massif central, Pyrénées et même les montagnes corses.
On sera prudent dans ces zones-là. Merci beaucoup Anissa. Vous écoutez Europe 1, très bon début de journée à tous. Nous sommes le lundi 2 mai. Et il est 6h. Des violences inacceptables commises par des casseurs. Gérald Darmanin condamne les saccages du 1er mai à Paris. 8 policiers blessés, un pompier agressé et l'indignation parmi les syndicats. Dans le cortège, côté politique, une poignée de main symbolique entre le PS et la France insoumise. Avant, peut-être, un accord historique. Les discussions reprennent aujourd'hui avec les communistes et les socialistes. Alliance déjà validée hier soir chez les Verts. Et puis elle a rangé son truc en plume pour de bon. Régine est décédée hier à 92 ans, la reine des nuits de Paris et de Deauville aussi, où sa discothèque était The Place to Be in Normandie.
Europe Matin, Fanny Marceau.
Le journal de 6h, Romane Hoquet, bonjour.
Bonjour à tous. Un pompier agressé par une manifestante, c'est l'une des images du cortège du 1er mai à Paris. Voilà, sur cet extrait vidéo, une femme frappe le casque d'un pompier. Lui éteint une barricade en flammes hier après-midi. Cela suffit, honte à la sauvagerie, tweet des sapeurs-pompiers de Paris. La manifestante a été interpellée. Une agression suivie par l'indignation, à commencer par celle de Manuel Coulet. L'adjoint national SUDS10 réclame une meilleure protection des pompiers en intervention.
On a été à l'origine, il y a 3 ans maintenant, d'une expérimentation sur les caméras piétons. Les sapeurs-pompiers qui ont permis de faire remonter des images au niveau des tribunaux et d'avoir des condamnations un peu plus fermes. Nous, on espère que le dispositif caméra piéton soit étendu aux véhicules, puisque c'est aussi un moment où les pompiers sont agressés quand ils sont encore en véhicule. Pour l'instant, c'est pas encore mis en œuvre. On espère que ça sera fait rapidement pour pouvoir continuer à avoir une sorte de protection
et en tout cas de dissuasion envers les agresseurs.
Manuel Coulès du syndicat Sud10, à Paris, des dizaines de commerces ont été vandalisés sur le parcours du cortège. 54 personnes interpellées. Violence inacceptable, dénonce le ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Violence parasite pour Jean-Luc Mélenchon, qui pointe aussi la responsabilité du préfet de police de Paris, incapable, je cite, de garantir le droit à manifester en paix.
Côté politique, justement, un 1er mai historique avec cette poignée de main entre le leader insoumis et le patron du PS, Olivier Faure.
Les négociations avancent entre les deux partis à 6 semaines des élections législatives. Épilogue attendu peut-être dans la journée. Europe Écologie Les Verts a validé hier soir une alliance historique négociée avec les insoumis. Une centaine de circonscriptions pourraient revenir aux écologistes. Parmi les points d'accord, la retraite à 60 ans et le SMIC à 1400 euros.
Le salaire minimum qui a d'ailleurs été revalorisé hier.
Oui, une hausse automatique au 1er mai pour compenser en partie l'inflation. Comptez une trentaine d'euros en plus sur votre fiche de paie. 2 millions de salariés sont concernés, notamment ceux de l'entreprise Altaïr à Strasbourg, où s'est rendue la correspondante d'Europe 1, Mélina Fachin.
Dans cet atelier de couture, la plupart des salariés touchent le SMIC. Pour Sophie, 31 ans, cette augmentation de 33 euros net par mois est une bonne nouvelle.
Si on compare aux grands revenus, 30 euros c'est vraiment rien, mais c'est toujours bienvenu, quoi. Ça va peut-être permettre un peu de marge par rapport à tout ce qui sera alimentaire et se faire plaisir de temps en temps avec un petit restaurant ou prendre le train, quoi.
En revanche, pour sa collègue Isabelle, 53 ans, cette revalorisation est loin d'être suffisante, notamment pour faire face à toutes les hausses de prix qu'elle constate en ce moment.
Je suis très café et du coup les dosettes sont passées. Donc elles étaient à 3,26, elles sont passées à 4,56 et c'est pour tout. L'électricité, le gaz, donc 33 euros, ça me paye même pas un plein de voiture. Pour moi, le SMIC aujourd'hui devrait être au salaire brut, qui est de 1600, pour vraiment s'en sortir.
Et pour éviter à cette mère de famille de demander régulièrement de l'aide en fin de mois à ses proches. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1.
Et Strasbourg, justement, aussi Bordeaux, Lille, Marseille, Paris. Des mobilisations de policiers dans une quarantaine de villes ce lundi. Un appel du syndicat Alliance après la mise en examen pour homicide volontaire d'un agent de 24 ans. Le policier a tué 2 personnes dimanche dernier, 2 hommes qui auraient forcé un contrôle sur le pont.
6h04 sur Europe 1, c'est une descente aux enfers digne d'un scénario hollywoodien. Pourtant, l'histoire cette fois est bien réelle, celle du procès entre Johnny Depp et Amber Heard.
L'acteur de Pirates des Caraïbes réclame 50 millions de dollars à son ex-femme pour diffamation, puisqu'en 2018, Amber Heard a publié une tribune l'accusant indirectement de violence conjugale. Nicolas Pineau, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Depuis 3 semaines, les ex-époux s'affrontent devant un tribunal de Washington. Un procès tout simplement sordide, Nicolas.
Oui, depuis 3 semaines, c'est le grand déballage entre les deux ex-époux. Une relation chaotique qui rime souvent avec drogue, alcool et violence. Appelé à la barre le premier, Johnny Depp a reconnu ses excès.
Vous buviez parfois du whisky dès le matin, non ?
Il n'y a pas d'heure pour l'apéro.
L'acteur, dont les fans viennent le soutenir jusqu'aux abords du tribunal, a aussi expliqué au juge comment il avait eu le bout d'un doigt coupé lors d'une dispute.
Elle a attrapé une grande bouteille de vodka et me l'a lancée. Le bout de mon doigt a été arraché. Je voyais mon os.
Qui était la vraie victime de ces violences conjugales ? C'est tout l'enjeu de ce procès, alors qu'Amber Heard est décrite comme une femme manipulatrice par les avocats de Johnny Depp. Ils ont fait entendre un enregistrement audio dévastateur pour l'actrice lors du procès.
Dis au monde, Johnny, moi, Johnny Depp, un homme, je suis aussi victime de violences conjugales. Et on verra si les gens et le juge vont te croire.
Johnny Depp, dont la carrière est à l'arrêt depuis les accusations de son ex-femme, lui réclame 50 millions de dollars de dommages et intérêts. L'actrice, qui ne s'est pas encore exprimée lors des audiences, devrait être appelée à la barre cette semaine. Un témoignage très attendu.
Le récit de Nicolas Pineau, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. 6h06, la reine de la nuit s'est endormie pour de bon.
Et puis je me suis habituée et tu reviens, si sûr de toi, avec ce regard.
Je survivrai, reprise du tube de Gloria Gaynor par Régine, disparue hier à 92 ans, et elle survivra bien dans nos mémoires.
Évidemment, Régine, qui possédait une 20aine de clubs sur la planète.
Oui, de New York à Kuala Lumpur, en passant par Rio de Janeiro, et aussi Deauville, en Normandie. Elle, la patronne du Régine's Club dans les années 60. Des souvenirs gravés dans la mémoire de Jean-Pierre Groom, directeur artistique du Casino Barrière.
Alors, c'était une grande dame de Deauville. Et l'endroit où il fallait être, the place to be, c'était la discothèque Régine. Et Régine était régulièrement sur Deauville. Je me souviens, elle savait ce qu'il fallait faire pour ambiancer, en fait, en termes de playlist, la lumière, la disposition du mobilier, la décoration. Elle donnait ses consignes et ça marchait. C'était vraiment une grande dame du spectacle. En tout cas, je garde franchement le souvenir d'une professionnelle. Elle était déterminée, mais elle était joviale et très sympathique. Voilà, c'est la reine de la nuit. Bon, maintenant, c'est la reine des étoiles maintenant.
Voilà, Jean-Pierre Grom, directeur artistique du casino Barrière de Deauville. Hommage à Régine, donc ambianceuse avant l'heure.
On adore Régine, on aime beaucoup. Et ce morceau, je survivrai, était extraordinaire.
J'étais pétrifié.
Ah ben voilà. Comment pourrais-je. C'était le journal de 6 heures. Merci Romain Oquet. Depuis j'ai pas fait tant. Le journal des sports et on commence tout de suite Johan Tritz avec le célèbre Olympico qui avait lieu hier soir, match qui a tourné à la correction.
Oui, pour l'Olympique de Marseille, l'OM est battu 3-0 à domicile face à Lyon lors de la 35e journée de Ligue 1. Des Lyonnais qui se replacent un peu au classement 7e, mais c'est encore loin de l'objectif initial. Si le gardien Anthony Lopez est satisfait de la victoire, il sait qu'elle laisse aussi des regrets dans une saison plutôt décevante.
Je pense qu'il faut féliciter la performance de toute l'équipe. Après, j'étais un peu vulgaire, mais ça me fait chier quand on est en voyant ce qu'on est capable de faire et de réaliser ce soir et de voir dans la situation dans laquelle on est depuis le début de saison. Voilà, j'espère que, en tout cas, on fera le nécessaire encore sur les 3 matchs qui viennent. Mais quoi qu'il arrive, à la fin de la saison, il restera des regrets.
Propos recueillis par Stéphane Burgat. En face, Marseille reste deuxième du championnat, mais cette défaite n'est pas forcément un bon signe. Avant sa demi-finale, retour de Conference League jeudi face à Feyenoord. Défaite 3-2 à l'aller.
Et bien plus bas au classement, c'est sans doute un plus gros club qui va quitter la Ligue 1.
Oui, Bordeaux a encore perdu à domicile face à Nice, 1-0. 18e défaite pour les Girondins cette saison, qui reste avant-dernier du championnat à 3 journées de la fin. Ça sent le roussi pour David Guillon et ses hommes qui tentent quand même d'y croire un peu.
Beaucoup de silence, on se replie un petit peu sur soi-même. Les garçons s'investissent, hein, je vous assure, ils s'investissent. Mais bon, on constate que ce n'est pas suffisant. On l'a vu, il y a quand même de la fébrilité, de l'anxiété qu'il va falloir vite balayer.
David Guillon au micro de Jean Berthelot.
Et on termine, ce n'est pas courant, avec du hockey sur glace.
Oui, avec l'équipe féminine de l'équipe de France qui a remporté le titre de championne du monde de D1A. En fait, c'est la deuxième division de hockey sur glace pour résumer. Elles ont battu la Norvège ce week-end 4-1 devant plus de 3000 spectateurs à Angers. Un titre qui permet aux Bleus de retrouver l'élite mondiale la saison prochaine, 4 ans après avoir été rétrogradé. Un moment de bonheur pour la joueuse Laure Baudry.
Mais là, l'objectif, c'était de monter, c'était d'être championne du monde et on l'a fait. Donc voilà, on est passé par des moments difficiles. On n'a pas forcément joué notre meilleur hockey tout le tournoi. Mais finalement, à la fin, on a réussi à être championne du monde parce qu'on a un putain de groupe soudé. 3500 personnes dans les gradins, c'était juste incroyable. Et voilà, donc c'est un exploit, mais en même temps, c'était notre objectif, quoi.
Très souriante, Laure Baudry, propos recueillis par Cédric Chasseur.
Merci, Johan Tritz, pour le journal des sports. Restez avec nous dans un instant. On passe en revue l'actualité politique débordante, législative en vue, nouveau gouvernement à venir. On essaie d'y voir plus clair avec notre invité, le président de Sinopia, l'Observatoire des gouvernances, Alexandre Malafaï. À tout de suite.
Fanny Marceau.
Votre matinale info sur Europe 1.
Bon début de matinée sur Europe 1. Il est 6h12, une semaine après la réélection d'Emmanuel Macron. La rue a parlé, elle a même été violente par endroits. À Paris, un pompier a été agressé, des vitrines brisées. Et c'est dans ce contexte que s'ouvre une semaine politique décisive. Bonjour Alexandre Malafaï.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, président de Sinopia, l'Observatoire des gouvernances. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Revenons d'abord, si vous le voulez bien, sur ces mobilisations du 1er mai hier. Plus de 100 000 manifestants en France, entre 116 et 210 000 selon les sources, tout juste après le second tour de l'élection présidentielle. Donc une semaine, tout pile, des étudiants, des retraités, des actifs, des chômeurs en colère ou inquiets de ce nouveau quinquennat et dont le message était clair, Emmanuel Macron n'a pas carte blanche. À votre avis, a-t-il reçu le message ?
Il faut l'espérer. Il fallait de toute façon qu'ils s'attendent à ce que le 1er mai qui succédait à l'élection présidentielle soit l'occasion pour les partenaires sociaux, notamment et pour les Français qui n'ont pas voté pour lui, d'envoyer un message, d'envoyer un signal. Parce qu'il y a toujours eu des manifestations et des défilés le 1er mai. Donc là, en soi, il n'y a pas de véritable scoop. Cette manifestation, elle a bien sûr montré que l'après-gouvernement, enfin l'après-élection présidentielle, allait être très difficile. Le troisième tour social, on peut le dire, oui, a commencé.
Cette semaine, on attend la nomination d'un nouveau Premier ministre au profil profil assez particulier puisque c'est lui ou elle qui sera chargé de mener les réformes écologiques. Le choix est-il difficile pour le président ?
Ben c'est un choix très difficile parce que vous savez, en 2017, quand Emmanuel Macron a été élu, c'est comme une espèce de boule de billard qui a percuté un paquet de boules qui bougeait pas beaucoup. Et depuis, la décomposition, recomposition, elle est toujours en cours. Regardez un peu ce qui se passe à gauche. Vous avez quatre formations dans lesquelles le PS ne joue pas un rôle majeur qui essayent de s'entendre pour faire une coalition. Autour d'Emmanuel Macron, vous avez 5, 6, 7 mouvements qui s'accrochent autour de la République en marche. Et à droite un peu plus extrême, c'est 2 à 3 mouvements qui essayent de trouver le meilleur des formations pour avoir un Parlement qui ressemble à la France. Et pour Emmanuel Macron, c'est très compliqué parce qu'il a donc à droite une attente sur le régalien sécuritaire, la gestion des retraites. À gauche, c'est le pouvoir d'achat social. Il y a les enjeux européens, géopolitiques, le reste du monde, ça va pas très bien en ce moment. Et puis, il y a tout le climat qui aussi préoccupe beaucoup de manière un peu transverse. Donc, vous faites quoi? Vous mettez un diplomate, vous mettez un politique, vous mettez un technicien, vous mettez un proche. C'est un sacré choix d'arriver à trouver le profil qui va envoyer, je dirais, le moins mauvais des signaux.
Et puis, il y a un critère important aussi, c'est qu'on a beaucoup répété qu'il pourrait s'agir d'une femme.
Ça fait partie des paramètres de l'équation. On a bien compris que c'était pas le critère essentiel, que l'important ce serait le profil qui va bien, puis il faut surtout trouver le profil qui pourra travailler avec Emmanuel Macron. Le style d'Emmanuel Macron, c'est une présidence quand même très directe, très en prise avec le gouvernement, très en prise avec les projets, très très directive si je puis dire. Donc il faut aussi trouver quelqu'un qui pourra travailler avec lui et qui ne sera pas ni en opposition de méthode, ni en capacité à faire trop d'ombre au président.
Les législatives sont en approche, ce sera les 12 et 19 juin prochains. Ce week-end, La République En Marche a pris de plein fouet l'affaire Coralie Dubost, c'est la députée de la 3e circonscription de l'Hérault qui a été épinglée pour ses dépenses abusives. Hier, elle s'est mise en retrait de la vie politique. Est-ce qu'une affaire comme celle-ci peut porter préjudice à La République En Marche pour ses législatives, sachant que c'est déjà mal parti puisque 64% des Français veulent une cohabitation selon un sondage paru ce week-end?
Ce qui est très décevant de la part du comportement de Coralie Dubost, c'est qu'en fait, on a avec cette jeune génération de parlementaires qui représentait cette espèce de renouveau démocratique et qu'on ait vu, mais c'est pas la seule, mais en tout cas qu'on ait vu des pratiques qui soient celles vraiment dignes du vieux monde. Ça, c'est très décevant. La bonne réaction, ça, il faut le dire, c'est celle effectivement de l'Élysée et de La République En Marche qui a tout de suite effectivement mis le holà. Alors c'était peut-être difficile de ne pas le faire, n'empêche que la décision est tombée. Et effectivement, elle s'est mise en marge, mais de toute façon, elle n'aurait vu aucune chance, sans doute, de se représenter. Et si le gouvernement, enfin, si Emmanuel Macron n'avait pas pris cette décision, là, pour le coup, ça l'aurait perturbé. Donc, je pense que le signal est bon, envoyé par en haut. Et par contre, c'est un vrai message pour tous ceux qui seraient tentés de mettre la main dans le pot de miel.
Pour les législatives, la gauche, de son côté, se met aussi en ordre de bataille. Hier soir, les Verts et les Insoumis ont trouvé un accord historique, a tweeté Alexis Corbière, le député de Seine-Saint-Denis. Leur nom commun, c'est la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. En fin de semaine dernière, les Verts doutaient pourtant de la sincérité des mélenchonistes. Est-ce que cette entente va vraiment tenir ?
C'est une vraie question parce que c'est quand même le mariage de la carpe et du canard. Ce qui est certain, c'est que les insoumis sont en position de force. Ils en profitent, ils ont raison, et les autres ont quand même intérêt à pas trop se faire marginaliser parce qu'il faut pas perdre de vue que le système électoral français au niveau des législatives est un système majoritaire à 2 tours qui favorise quand même très clairement celui qui arrive en tête. Donc on a quand même, et surtout s'il y a des triangulaires, ça va être effectivement très compliqué. Donc oui, ils ont intérêt à s'entendre. En tout cas jusqu'aux législatives. Après, il n'est pas du tout impossible que chacun, une fois qu'il y aura une composition à gauche, comme il y aura une composition à droite, que chacun reprenne sa vie pour défendre effectivement des logiques qui leur sont plus proches. Rien qu'avoir le titre de cette nouvelle formation, on comprend la difficulté de l'équation. Ils ont voulu tout mettre dans le titre. Regardez ce qu'on voulu faire les Verts avec Europe Écologie Les Verts. Ça n'a jamais très bien fonctionné.
Reste maintenant pour LFI à se mettre d'accord avec les communistes et puis surtout avec les socialistes, avec qui une alliance semblait impensable il y a encore quelques semaines. Est-ce que c'est possible véritablement?
Ben, la question, c'est celle qu'évoquait tout à l'heure Patrick Kanner dans un reportage que vous diffusiez. C'est la question de, ou c'était sur une autre chaîne, je crois, pardon. Mais en tout cas, c'est la question, c'est celle des lignes rouges. Voilà. Typiquement aujourd'hui, pour Jean-Luc Mélenchon, c'est très clairement la question européenne qui pose question. Il a dit que lui, s'il était Premier ministre, il ne pousserait pas en faveur d'un Frexit dans les prochaines années. Mais ça ne veut pas dire qu'il l'a pas en tête. Voilà. Donc là, il y a des lignes pour l'instant qui sont tracées par les uns et qui sont infranchissables pour les autres. Donc on verra ce qu'il
en est. Mais c'est vrai que ça va être effectivement très compliqué. Par contre, moi, je le redis, le coup tactique de Jean-Luc Mélenchon entre les deux tours de la présidentielle pour dire votez pour moi au mois de juin, vous allez élire votre premier ministre. Tactiquement, par rapport à toute une génération politique qui arrive, c'est un coup génial.
On termine avec une dernière question sur quelqu'un qui a totalement disparu de la scène. C'est Éric Zemmour. Il ne devrait pas se présenter. Marion Maréchal, qui l'a soutenu à la présidentielle, non plus d'ailleurs. Certains cadres quittent déjà son parti. La reconquête, c'est déjà fini alors ?
Ah oui, ça c'est vraiment l'impression du feu de paille. C'est très étonnant et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont rejoint, qui doivent aujourd'hui s'en mordre les doigts évidemment. Je pense en particulier à Marion Maréchal, puisque même Jean-Marie Le Pen a dit qu'elle avait commis sans doute une erreur tactique. On verra s'il y a une réconciliation possible. Oui, c'est vrai que c'est très compliqué pour Éric Zemmour. Il faut dire que après, il a, comme beaucoup de partis de radicaux, dit des choses que les gens avaient envie d'entendre et il posait souvent des diagnostics intéressants sur la réalité française. On n'était pas forcément d'accord avec lui, mais en tout cas, ça provoquait le débat. Mais après, il a, lui aussi, il est parti dans des espèces de, on va dire, de faute de quart sur les positions liées à l'Ukraine, sur certains nombre de dispositions qu'il voulait proposer, sur les prénoms. Voilà, tout ça, c'était devenu totalement inaudible. Donc oui, c'est compliqué pour lui. Et c'est sûr que se retrouver aux législatives avec une opposition frontale contre lui de l'ensemble des formations politiques pour ne pas être élu, ce serait un camouflet supplémentaire. Mais la question, comment est-ce qu'il va peser dans la vie politique, ça reste, à mon avis, une vraie question, parce que malgré tout, ce qu'il dit est encore entendu par beaucoup de gens.
Et des questions, il y en a encore beaucoup sur cette semaine politique chargée et ces législatives. On les étudiera avec attention sur Europe 1. Merci Alexandre Malafaye.
Merci à vous.
Pour cet éclairage en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes écrivain et président de Synopia, l'Observatoire des gouvernances.
Europe Matin. Fanny Marceau.
6h20, le journal permanent, Alban Le Prince.
La guerre en Ukraine avec, pour la première fois depuis le début du conflit à Marioupol, deux vrais jours de cessez-le-feu, selon Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Dans la ville martyre, une centaine de civils a pu être évacués de l'usine Azovstal. La décision d'exclure les joueurs russes et biélorusses du tournoi de tennis de Wimbledon continue de faire réagir. D'ailleurs, hier, juste avant les Masters 1000 de Madrid, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont dénoncé une mesure très injuste. Retour en France à 6 semaines des législatives. Accord trouvé cette nuit entre écologistes et insoumis sous la bannière de Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Les discussions reprennent aujourd'hui entre la France Insoumise, le Parti Socialiste et le Parti Communiste.
C'est l'heure de la partition. Bonjour Ombline.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
À la fin du mois, on pourra découvrir la nouvelle série Pistol sur Disney+. Elle retrace l'ascension et la chute du groupe punk britannique Les Sex Pistols. L'occasion de revenir ce matin sur l'album légendaire Nevermind the Bollocks.
L'unique album du groupe, reconnaissable avec sa pochette jaune et rose fluo Nevermind the Bollocks, qu'on ne traduira pas ici, est à l'origine du mouvement punk britannique. Formé le groupe le plus subversif du Royaume-Uni, le guitariste Steve Jones et le batteur Paul Cook sont deux ados mordus de rock'n'roll. On est en 1972 et ils se font appeler The Strand et ils traînent du côté de King's Road à Londres dans la boutique de vêtements de celle qu'on surnomme l'enfant terrible de la mode, la styliste Vivienne Westwood. Son compagnon, Malcolm McLaren, décide de prendre The Strand sous son aile. Il recrute Glenn Matlock à la basse et se met à la recherche d'un chanteur. C'est un autre habitué du quartier qui est engagé, John Lydon, parce que ce jour-là, il porte un t-shirt avec l'inscription « Je déteste Pink Floyd ». Le groupe, rebaptisé Sex Pistols, ne cache pas son aversion pour la situation ambiante, qu'elle soit sociale, politique et musicale, avec le rock qui, selon eux, se ramollit. Dans l'Angleterre frappée par la récession, ils invitent la jeunesse désœuvrée et la classe ouvrière à se rebeller.
Premier concert en novembre 1975, ils massacrent le matériel prêté par le groupe en tête d'affiche.
Ensuite, grâce à leur première maquette, les sales gosses des Sex Pistols signent avec la respectable maison de disques EMI, le label des Pink Floyd. Alors rassurez-vous, ça ne va pas durer longtemps. Ils sont récupérés par A&M Records. Là encore, ce sera un passage éclair. Finalement, Virgin devient leur troisième maison de disques en 1 an et demi d'existence. Entre-temps, le bassiste Glenn Matlock est viré.
Il est remplacé par le Barjo Sid Vicious avec ses cheveux en crête et vous savez, ses épingles à nourrice. Sid Vicious qui va à lui tout seul condenser l'imagerie du mouvement punk. En studio, ça avance. Les deux membres fondateurs s'avèrent être d'excellents compositeurs et instrumentistes qui travaillent d'arrache-pied pour sortir enfin un album. Nevermind the Bollocks est salué par la critique malgré le scandale que provoque l'un des singles du groupe. Alors qu'Elisabeth II célèbre son jubilé d'argent, c'est-à-dire ses 25 ans de règne, les Sex Pistols présentent lors d'une conférence de presse devant Buckingham Palace God Save the Queen. Ils deviennent officiellement les ennemis de la couronne. God Save the Queen des Sex Pistols en 1977, la mini-série Pistol consacrée au groupe culte et signée du réalisateur Danny Boyle sortira sur les plateformes Disney Plus le 31 mai. Merci Ombline, on se retrouve demain pour une nouvelle partition. Restez avec nous sur Europe 1, la matinale se poursuit dans un instant avec Pierre de Villeneuve.